Vous voyez quand même que tout à l'heure, j'ai évoqué très rapidement ce qui nous retenait, c'était bien sûr notre foi, mais la terre aussi est un dénominateur commun fondamental, parce que le jour où, j'espère que ça n'arrivera pas, mais où nous l'aurons détériorée, ben, l'humanité serait dans un triste état. Monsieur le professeur, je vous donne donc merci. La parole merci. Sur le sujet.
Merci. Bon, merci, monsieur Gildas.
Merci.
Donc, en ce qui concerne le sujet qui a été donc choisi, c'était bon, la terre et l'homme dans l'islam. Mais après, depuis, on a eu quelques discussions avec monsieur Huido. Donc, en fait, le titre, il est vaste. Le titre, il est vaste. Bien sûr, aujourd'hui, l'environnement et l'écologie est d'actualité. On sait tous que, avec tous les problèmes que cause l'homme aujourd'hui à lui-même et à la nature, il est devenu très urgent d'en parler. Et on a bien peur que ça soit un petit peu trop tard. On a bien peur. Bon, il y a des discours qui sont alarmistes de quelques courants écologistes. Nous allons un peu tenir un discours équilibré, hein, pour laisser de l'espoir. C'est très important. Mais l'homme, croyez-moi, a fait beaucoup de dégâts pour lui-même et pour la nature. Quand on voit les rapports, que ce soit les rapports des Nations Unies, ou bien des grands experts de l'environnement et de l'écologie, on constate que l'homme, vraiment, il est allé très loin dans son comportement avec cette nature. La position de l'islam sera traitée, bien sûr, je vais être le plus bref. Déjà, quel est le rôle de l'homme sur Terre ? Première question, très importante. La deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre, cet homme est-il responsable de la bonne gestion ? Quelle est sa tâche sur cette terre ? Troisième question, l'environnement ou la nature, ou l'écologie si vous voulez, fait-il partie de la responsabilité de l'homme ? Ou bien cet homme-là est libre de faire ce qu'il veut dans cette, on va dire, propriété. Comme on va le rappeler, le Coran le rappelle, donc je vais rapporter les textes coraniques et vous vous excuserez en arabisant qui va parler un petit peu en français. Je ne suis pas un bon francophone, donc il y aura quelques lapsus. Donc le sujet fondamental, c'est le rôle de l'homme sur Terre et sa responsabilité vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de la nature, dans le texte coranique. Quand on dit dans le texte coranique, j'ajouterai aussi dans ce qu'on appelle la sunna qui est les paroles et les gestes ou les faits du prophète de l'islam, que la paix soit sur lui et tous les prophètes. Donc la sunna, si vous voulez, c'est un commentaire du Coran. Hein. Donc quand il y a des révélations des textes coraniques, donc les compagnons du prophète lui demandent qu'est-ce que ça veut dire. Donc le prophète explique. Et il y a des gens qui ont rapporté ces dires, et ça, dans des manuels, on les appelle les livres de la Sunna. Pour tout commencer, il faut revenir à la création de l'homme, le premier, Adam. On est tous d'accord sur cette question-là. L'islam nous renvoie tout d'abord à la création. Pourquoi ? Cet homme-là, c'est lui le maître, il est devenu maître de cet univers. Pourquoi ce n'est pas les autres créatures ? Pourquoi c'est lui seul ? C'est une tâche qui a été déléguée, donc il n'est pas maître des lieux, bien sûr, c'est pas le propriétaire, mais il est gestionnaire. Donc le Coran utilise un mot en arabe qui veut dire khalifa. Khalifa, on peut traduire en français lieutenant, hein, celui qui tient les lieux, ou bien le gestionnaire, hein, qui va. On lui a délégué, hein, d'accord. Donc dans la sourate, deuxième sourate du Coran, verset 30 jusqu'au verset 33, je vais le rappeler. Allah dit, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un calife ou bien un lieutenant ou bien un vicaire. Hein. Ils dirent, c'est-à-dire les anges, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Et il dit, le Seigneur, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il a appris à Adam tous les mots de toutes les choses, tous les noms de toutes les choses. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Dans notre prétention, que vous êtes plus méritant qu'Adam. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis, quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Pourquoi j'ai commencé par ce verset de la sourate de la vache? Pour dire que ce que le Seigneur, ce que Dieu a appris à Adam, il lui a appris, les commentateurs du Coran nous disent, il lui a appris tous les noms qui existent des choses sur terre. Voilà, c'est-à-dire l'arbre, c'est-à-dire l'eau, la terre, le soleil, il lui a appris toutes choses, les fruits, etc. Les anges, il ne connaissait pas. Il ne les connaissait pas. Donc, bon Dieu a voulu démontrer aux anges qu'il a la supériorité parce qu'il a la science. Chose que vous n'avez pas. D'accord ? Donc on va revenir maintenant à cette science. Qu'est-ce que l'homme a fait de cette science ? Est-ce qu'il l'a utilisée dans le bon sens ou là il l'a utilisée dans le mauvais sens ? C'est-à-dire la responsabilité de l'homme, qui est un grand honneur d'avoir, que le bon Dieu lui a délégué cette grande responsabilité, c'est quand même, c'est très important. Mais en même temps, c'est un grand honneur, mais en même temps, c'est une immense responsabilité que l'homme prend sur son dos, et que d'autres versets dans la sourate de la Kahf qui nous rapportent que même les montagnes ne peuvent pas prendre ce que l'homme a pris comme responsabilité. Je ne vais pas lire tout ce qui a été rapporté comme parole du prophète sur l'importance de la science. Cela, je le laisserai peut-être à la publication qui sera peut-être intéressée aux gens qui peuvent lire. Il y a beaucoup de dire du prophète qui insiste sur l'apprentissage de la science, tout en démarrant de ce geste que Allah a voulu faire passer comme message aux anges et aussi aux humains, que la science, quand même, c'est quelque chose de très important et qu'à partir de la science, qu'on peut avancer, qu'on peut avoir de l'importance. Quels sont les éléments constitutifs du système naturel qu'Allah a créé au service de l'homme? C'est très important. Donc, le Créateur a poussé des arbres, a coulé des fleuves, a brillé le soleil, a fait succéder le jour, la nuit, et a donné à l'homme l'esprit, l'intelligence, ce qu'on appelle l'intellect, al-aql en arabe. Donc, le Seigneur a donné des capacités à cet être humain pour qu'il puisse, quand même, avoir une certaine dialectique avec cet univers dont il vit. Il ne l'a pas laissé, comme ça, au hasard, à la coïncidence. Donc, il lui a donné tous les moyens qui sont profitables à lui, afin de travailler cette terre et afin d'avancer, comme on va le voir, parce que son rapport avec la nature, dans le contexte coranique, ce n'est pas un rapport matériel, bien que c'est important, mais c'est un rapport aussi spirituel. Et c'est là que l'islam intervient. Il y a beaucoup de versets, je ne vais pas citer tous les versets qui traitent chaque sujet, donc j'ai choisi un ou deux versets. Donc, en ce qui concerne les éléments constitutifs du système naturel qu'Allah a créé au service de l'homme, on prend la nature, le verset de la sourate du troupeau, sourate 6, verset 96, où Allah dit, fondeur de l'homme, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps, voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. On voit ici déjà le Coran, vous savez, à l'époque quand les textes ont été révélés, que ce soit chez les chrétiens, les musulmans ou les juifs, il n'y avait pas de pollution, hein, il n'y avait pas des usines, il n'y avait pas donc la pollution, on va dire, le mot pollution, c'est quelque chose de nouveau, hein, est apparu avec ce qu'on appelle la révolution industrielle, avec, etc. Mais le Coran utilise un mot quand même qui englobe la pollution, c'est le désordre, c'est très important. Le mot désordre englobe la pollution. Pourquoi ? Parce que celui qui fait le désordre dans la nature, il fait de la pollution dans la nature. C'est-à-dire celui qui respecte les lois de la nature que le Seigneur a créées. Il a créé des lois dans cet univers. Même les scientifiques le disent. Les lois de la relativité, l'attraction. Tous les grands savants, les chercheurs dans leur laboratoire, ils ne créent pas les théories, mais ils découvrent les lois. Il découvre ces théories-là qui existent déjà dans la nature. Newton, ce n'est pas lui qui a découvert la théorie, mais c'est lui qui l'a découvert, mais ce n'est pas lui qui l'a créée. Elle existait avant lui. Donc toutes ces théories-là, ce sont des lois que le Seigneur a fait dans la nature, commençant par l'électron ou l'atome, jusqu'au cosmos, à l'univers. Donc tout cela se relie. Et comme on le voit dans beaucoup de versets, c'est cité que tout est calculé minutieusement. Et on est étonné quand on voit nos amis athées, on va ouvrir une petite brèche, qui ne reconnaissent pas, avec tout le respect qu'on leur doit, dans les différents débats qu'on a avec eux, et il se trouve qu'il y a des grands scientifiques parmi eux, ils ne peuvent pas admettre que quand ils vont dans une bibliothèque pour se renseigner, ils voient que les livres d'astronomie sont bien rangés d'un côté, et que les livres des mathématiques sont bien rangés d'un côté, que les livres d'histoire sont bien rangés d'un côté. Ils n'admettront jamais que ces livres sont arrangés par eux-mêmes. Ils vont dire qu'il y a sûrement un bibliothécaire qui a arrangé ça. Ça, ils ne l'accepteront pas. Vous pouvez lui dire non, les livres sont sortis du carton, ils sont arrangés par eux-mêmes. Non. Par contre, ils admettent que tout cet univers, qui est une grande bibliothèque immense, et qui est complexe, et commençant par l'atome, commençant par l'humain, commençant par la cellule, commençant par tout ce qu'on peut voir, on voit dans nos découvertes, dans les laboratoires, tout cela, ce sont des bibliothèques quand même qui prouvent qu'il y a quelque chose derrière qui a minutieusement calculé et planifié et fait. Bon. Allah nous dit dans la même sourate du troupeau, et c'est lui qui du ciel a fait descendre l'eau, puis par elle nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier, de saspate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, d'olives et de la grenade, semblables aux différents les uns des autres. Regardez les fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. C'est-à-dire, quand quelqu'un a la foi, il peut passer par des choses que ça paraît pour les gens quelque chose de banal, mais quand il a la foi, comme on va le voir, il découvre c'est-à-dire les attributs du Seigneur dans sa créature. Allah nous renvoie dans le Coran à plusieurs versets, comme on va le voir, à regarder pour découvrir sa puissance, d'accord ? À regarder sa créature. Afala yanduru, ne voit-il pas, ne pense-t-il pas, ne regarde-t-il pas ? Mais malheureusement, l'aveugle, ce n'est pas l'aveugle des yeux, c'est l'aveugle qui c'est l'aveuglement des cœurs. Il y a un verset qui dit « La ta'amal absar, inama ta'amal qulub, lati fi sudur » Ce n'est pas l'aveuglement, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est aveugle, mais il a une observation, il a une portée, il a une analyse extraordinaire. Je vais pas citer tous les versets qui traitent de la question de l'importance de la nature dans le Coran. Je vais passer directement, il y a à peu près une 100 ou 200 versets qui traite globalement sur la question de la nature. Je passe à la question, à l'importance de l'eau. J'ai touché les sujets qui sont traités aujourd'hui, qui sont d'actualité. L'eau comme source de vie, le Coran nous interpelle. D'ailleurs, l'eau est citée 63 fois dans le Coran, d'où l'importance de l'eau. Allah nous dit, de l'eau nous avons fait toutes choses vivantes. Il nous dit aussi dans une autre sourate, c'est lui qui de l'eau a créé un mortel et a tiré de celui-ci une descendance des deux sexes. Il dit aussi, nous avons fait descendre une eau du ciel et avons poussé sur terre toutes sortes de plantes par couples précieux. Il dit aussi, n'as-tu point vu que Dieu a fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons fait sortir des fruits de diverses espèces, etc. etc. Donc nous voyons qu'il y a quand même 63 fois que l'eau revient à chaque fois dans le Coran, dans divers sourates, dans divers contextes, pour nous rappeler quand même de l'importance de cette eau. Et si le Seigneur nous rappelle l'importance de l'eau dans le Coran, c'est pour qu'on soit responsable de cette eau dans notre vie, de ne pas le gaspiller, de ne pas le polluer, etc. Il nous dit aussi, nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, et grâce à elle fit pousser des jardins, et le grain comme moisson. Je passe aux cieux et l'air au service de l'homme. Allah dit, Dieu est celui qui a créé sept cieux et autant de terres. Il dit aussi, les sept cieux exaltent ainsi que la terre et ceux qui s'y trouvent. Sourate de la nocturne. Il dit aussi, nous avons pu créer le ciel, la terre et ce qui est entre eux. On ne les a pas créés en jouant. Il dit aussi, nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qui est entre eux à la légère. Il dit aussi, Seigneur, tu n'as pas créé ceci vainement. Gloire à toi, préserve-nous du tourment du feu. tout cela pour parler de l'air, le gaz, l'air, les cieux, toute la nature, elle est répétée, 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 répétée. Comme on va le voir, la terre, elle est citée dans le Coran 451 fois. Vous imaginez ? Elle est citée dans le Coran 451 fois, d'où l'importance de cette terre. On vit sur cette terre. C'est notre maman. On n'a pas le droit de lui faire du mal. C'est un grand mal qu'on fait à nous-mêmes si on touche à cette terre. Mais l'homme, malheureusement, quand il est, on va le voir, je vais dire un mot, en tant qu'économiste, en tant que financier, j'ai mon mot à dire sur le malheur de la vache folle, par exemple, et le malheur des crises financières, le malheur de la machine économique, de la mondialisation, que l'homme a complètement oublié son rôle sur Terre. Il ne pense qu'à la maximisation du profit, il ne pense qu'à la croissance. La vache, c'est pas la vache qui est devenue folle, c'est l'homme qui est devenu fou, parce que la vache, c'est lui le fou, c'est pas elle. La vache, elle a mangé ce qu'on lui a donné, elle n'est pour rien. L'homme a voulu que cette vache devienne grosse, plus grosse, le plus vite possible, pour qu'il vende, pour qu'il ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Il ne s'est pas soucié d'avoir des laboratoires en parallèle, d'étudier la matière avant de donner à cette vache. Ensuite, on dit que c'est la vache qui est folle. Non, c'est l'homme qui est fou. En ce qui concerne la terre, il existe, j'ai dit 451 versets, je ne vais pas tous les citer, je vais citer 2-3 versets seulement. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie et grâce à elle fait pousser des jardins et des grains qu'on moissonne. Par cette eau, il a fait pousser pour vous les céréales, l'olivier, le palmier, les vignes et toutes sortes de fruits, etc., etc. Les forêts, on doit dire un mot quand même aux forêts, c'est très important. Les forêts, c'est le poumon de l'humanité, le poumon de l'être humain. L'être humain les détruit, et c'est pas qu'il s'auto-détruit. Même économiquement parlant, il y a plus de 4000 produits qu'on tire actuellement des forêts, directement. Je citerai par exemple... l'acide, la colle, l'alcool, le forage, le tissu, le colorant, l'acide tisseur, l'huile, le papier, les matières plastiques, médicaments, etc. Il y a plus de 4000 produits finis qu'on tire directement. Et quand on anéantit une forêt, quand même, on s'auto-anéantit. Je vais dire tout cela. Ensuite, je vais faire une petite remarque pour ne pas se positionner, je suis dans un cadre religieux, neutre, apolitique, pour ne pas me positionner dans le cadre écologique, parlant politique. Parce qu'on ne peut pas se positionner dans un côté naturaliste, on va dire, hein, en défendant la nature, en s'opposant à l'homme. D'accord ? L'islam fait un grand équilibre entre l'amour de la nature et quand même l'intérêt de l'homme dans cet univers. Parce que c'est très important de défendre la nature, mais aussi de défendre l'homme. Il ne faut pas se positionner avec une dissimulation de haine contre l'homme. C'est-à-dire la nature doit être au service de l'homme et l'homme, lui, de son côté, doit respecter les lois divines qu'Allah a créées dans la nature. Il y a une certaine homogénéité entre les deux parce que l'homme, il fait partie de cette nature. On va parler, on va dire, un mot de la faune, les richesses, l'abandon des animaux, qui est très très importante. Le Coran cite, il y a beaucoup d'animaux, juste c'était un seul verset, les chameaux ont par lui été créés pour vous s'y trouvent vêtures et utilités et nourriture dont vous mangez. Les ressources aquatiques aussi, la richesse aquatique, elle est inestimable quand on pense aux dégâts qui ont été faits par les marées. Quand on cite le mot Erika, quand même, c'est un traumatisme, surtout les gens de la région. Ils connaissent très très bien ce que, c'est-à-dire le contribuable déjà, a payé pour les dégâts de l'homme qui ne pensait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des navires qui étaient censés à ne pas être à l'eau. Ils devraient être quand même, comme on a dit, dans des cimetières de bateaux. Hein. Et le Coran nous cite plusieurs versets, je citerai la sourate des abeilles. C'est lui qui a assujetti la mer pour que vous mangiez une chair fraîche issue d'elle et en tiriez des joyaux que vous portez. Bon, voilà. Donc, en général, j'ai cité rapidement c'est-à-dire la nature, comment elle est citée dans le Coran, qu'il y a une grande importance, que ce soit à la terre, que ce soit à l'eau, que ce soit aux fruits, que ce soit aux animaux, tout cela font partie intégrante de nous. Nous n'avons pas le droit de toucher parce qu'il ne nous appartient pas. On nous a délégué une responsabilité et le Coran est considéré comme un code de la route qu'on doit respecter vis-à-vis de cette nature. Le contexte de la mention de l'environnement dans le Coran. L'environnement est cité dans différents contextes dans le Coran. Il est cité par exemple dans un contexte autonome. carrément, directement, le verset, il parle de l'environnement lui-même. Il y a toute une sourate qui s'appelle sourate du fer, al-hadid. Donc cette sourate, Allah nous dit, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens et pour qu'Allah reconnaisse qui l'invisible défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. On voit ici qu'il y a quand même un message concernant le fer. Attention, dans le fer, il peut y avoir, c'est-à-dire des bonnes choses, des très bonnes choses, mais attention, il peut être utilisé, c'est une arme à double tranchant, quand on voit la technologie meurtrière qui tue par milliers Nagasaki, Hiroshima, c'est-à-dire il suffit d'un petit geste et on a toutes des villes et des milliers de personnes, malheureusement, qui sont vaporisées en une fraction de seconde. C'est une immense responsabilité que l'homme porte sur son dos et que l'humanité tout entière porte sur elle. Allah nous parle dans d'autres sourates, sourate de la miséricorde, du miséricordieux. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. C'est-à-dire que tout est calculé minutieusement. L'homme, heureusement, qui n'a pas la capacité de faire un peu reculer le soleil ou bien avancer un peu la terre, sinon les catastrophes naturelles seraient beaucoup plus catastrophiques qu'on l'imagine. On peut parler aussi d'un autre verset où Allah dit « Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. » Il dit aussi « Tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques, il a créé l'homme d'argile sonnante comme le potrier. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, etc. etc. » Donc on a plusieurs versets qui traitent de la question de l'environnement directement. L'environnement est cité aussi en tant que réflexion afin d'attirer l'homme, comme je le disais à l'introduction, vers les attributs d'Allah dans cet univers. Donc les seigneurs nous renvoient à des choses qu'elles deviennent comme banales par rapport à nous. Le chameau, le bédouin, il le voit tous les jours. Nous, aujourd'hui, surtout avec notre vie matérielle et avec la modernité, on n'arrive même pas à lever des fois les yeux vers le ciel pour voir. On a oublié le ciel, on a des bâtiments partout, on est quand même un peu, on a oublié la nature. Hein. Heureusement qu'il y a quelques jardins qui nous entourent. De temps en temps, on peut aller voir la nature dans sa nature, on va dire, nature première. Sinon, Allah a dit dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf, « N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toute chose qu'Allah a créée, que leur terme est peut-être déjà proche ? En quelle parole croient-ils après cela ?» Il dit aussi dans une autre sourate, « Celui qui a créé cette cieux superposée, sans que tu vois de disproportion en la création, du tout miséricordieux, ramène sur elle le regard, et vois-tu une brèche quelconque ? Puis retourne ton regard à deux fois, le regard, tu reviendras humilié et frustré. » C'est-à-dire, on peut chercher les défauts dans la nature. Il n'y a pas de défauts dans la nature, ça n'existe pas. Les défauts, quand les gens ils vont dire, oh, « Non, mais il y a des malformations, mais... » d'accord. Et ça fait partie de la nature. Mais on parle de la nature des cieux. Est-ce que quelqu'un avait une fissure? Mais les fissures, oui. Une fois, un sage, un grand saint, un soufi, c'est-à-dire c'est des spirituels musulmans, sortes de personnages qui vivent comme ça, comme les moines dans des églises, qui sortent rarement, qui sont toujours, qui méditent. Non, je n'ai jamais entendu parler des trous d'ozone, etc. On lui a dit, voilà, l'homme, il a fait des dégâts, maintenant il a fait des trous. Quel trou ? Il a fait des trous dans le ciel et maintenant il y a un problème, les rayons ultraviolets peuvent rentrer, etc. Ah non, non, non. Il a dit ce sont ses péchés. Ce sont ses péchés. Ce sont ses péchés qui ont fait ce trou-là. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Pourquoi ? Parce que le péché, c'est contrarier le texte. C'est ne pas respecter la loi. C'est ça. C'est-à-dire, dans cet univers, le Seigneur a créé une loi dans nos rapports avec la nature. Nous devrons la respecter. Il est dit dans la sourate des Byzantins, verset 48, « Allah, c'est lui qui envoie les vents et qui soulève des nuages, puis il les tend dans le ciel comme il veut, et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur, puis lorsqu'il atteint avec elle, qu'il veut parmi ses serviteurs, les voilà se réjouir. » Ensuite, il dit, « Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah. Comment il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est lui qui fait revivre les morts, et il est l'omnipotent. » C'est-à-dire qu'il y a des terres, elles sont mortes. Le bon Dieu envoie de la pluie, elle lui donne de la vie. D'accord. Il y a beaucoup de versets, il y a de la sourate de Jonas, j'en passe. énormément de versets qui traitent de cette question-là. La sourate de l'enveloppante dit « Non, ne considèrent-ils donc pas les chameaux comment ils ont été créés, et le ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont adressées, et la terre comment elle est nivelée ?» L'être humain, il passe devant ces choses-là, mais il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il ne réagit pas. Malheureusement, c'est comme si la vie matérielle, elle nous a pris de vitesse, que nous n'avons pas le temps de penser à autre chose qu'à la survie, qu'à la matière. Il faut faire des brèches, il faut toujours revenir à la spiritualité, il faut regarder à la nature si on veut penser au Seigneur. Quant à l'être humain en lui-même, il y a un verset qui dit « Wafi anfusikum afala tubsirun » et en vous-même, ne pensez-vous pas, ne réfléchissez-vous pas, quand on réfléchit un petit peu, le fonctionnement du cerveau, le système sanguin, le système urinaire, le système digestif, bref, toute la biologie humaine. Ajoutons à cela l'énigme de l'âme, l'énigme de l'ego, l'énigme de l'intellect. Toute cette créature, commençant par l'être humain lui-même, par les actes, par tout cela, nous renvoie à découvrir les attributs des seigneurs qui sont beaucoup et immenses. Si on veut connaître ce seigneur-là, nous devrons déjà le connaître à travers sa création. On découvre beaucoup d'attributs. La pérennité, l'attribut de l'unicité, l'attribut de l'autosuffisance, l'attribut de la science, l'attribut de la sagesse, l'attribut de la volonté, l'attribut de la puissance, etc. etc. Un grand saint soufi a dit un jour, il n'existe point d'atome sur terre ou dans le ciel qui ne porte pas une signature de l'existence du Créateur. C'est-à-dire celui qui cherche vraiment, et il y a un verset qui dit, ceux qui craignent vraiment le Seigneur, ce sont ceux qui ont de la science, normalement. Parce que c'est eux qui découvrent ces lois. Ils disent, oh, c'est incroyable, le fonctionnement de la cellule. C'est pas possible. Comment le sucre ne peut pas rentrer? Comment le dosage de l'oxygène? Comment il refuse ce produit? Cet aliment, pas celui-là? Comment la respiration? Comment le corps fonctionne? C'est incroyable. C'est pas nous qui fonctionnons, notre cœur. On ne va pas lui dire non, écoute, hein, n'arrête pas. Sinon, ça fait longtemps que c'est arrêté. Donc, ce sont des lois que le Seigneur a fait en nous, de toutes petites particules de la cellule jusqu'au cerveau, jusqu'aux os. Toute cette nature, elle est faite de lois que nous devons respecter. L'environnement est cité aussi en tant que modèle de réflexion, de théologie. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui, le compatissant, le parfaitement connaisseur, celui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grands étendues, mangez de ce qu'il vous fournit vers lui la résurrection. Je passerai tous ces versets-là pour parler aussi du contexte de l'environnement qui est cité dans le Coran dans un contexte aussi historique. Quand le Seigneur nous renvoie aux communautés qui nous ont précédés, qui n'ont pas respecté l'ordre, qui n'ont pas respecté la nature, qui n'ont pas respecté le texte, qu'est-ce qui s'est arrivé à ces gens-là? Ils se sont autodétruits. Le Coran nous renvoie, il nous dit, le sort traditionnel avant vous s'est accompli. Allez donc sur terre et considérez quelle fut la fin de ceux qui crièrent au mensonge. Sourate de la famille de Imran. C'est-à-dire, quand on va voir les musées, quand on va voir ce qui reste des civilisations anciennes, etc., les gens, ils disent, oh tiens, ils ont... Mais il faut réfléchir de l'histoire de ces gens-là. Est-ce que ce sont des gens qui ont bien fini bien leur vie? Est-ce que ce sont des gens qui se sont autodétruits, etc.? C'est très, très important de revoir. Surtout que la malédiction tombait sur les gens. Il y avait des punitions qui étaient destinées. Les textes, tous les textes, que ce soit chez les musulmans, les juifs et les chrétiens, parlent quand même des malédictions qui ont touché beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le chemin que le Seigneur leur a prescrit. Je passerai à un autre contexte. L'environnement en tant que leçon morale, éducative et scientifique. La mer avec Noé, pour qu'il nous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il nous accorde beaucoup de biens, des biens et d'enfants, il vous donne des jardins, il vous donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? C'est-à-dire, il nous a tout donné. Il nous a donné surtout la chose la plus importante, c'est le réflexe, l'intellect, le cerveau. Mais malgré ça, ce cerveau-là, il est utilisé par quoi? Pour qui? Est-ce que c'est lui qui guide l'ego ou bien il est guidé par l'ego? Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de versets qui traitent de cette question. L'environnement en tant qu'approche afin de décrire la beauté et le bonheur. Allah nous parle dans plusieurs versets. Ses ombrages les couvriront de près, etc. etc. Donc, l'environnement dans un contexte aussi de peur et d'espoir, Allah nous dit dans un verset que j'aime beaucoup, parce que quand on est dans un avion et on est en haut, ou bien dans un bateau et dans la mer, et qu'on a perdu tout contact, il faut demander aux gens qui ont eu ces expériences-là. Le plus grand athée qui peut être, là, il va devenir, c'est un grand croyant, il va devenir le plus grand croyant, il va devenir un moine. Quand il a perdu tout contact avec la terre, et que ça y est, c'est fini, là, il se retourne à son Seigneur. Hein. Ça, c'est la nature première qui va parler, qui va surgir. D'accord ? Allah nous dit, dans la sourate du voyage nocturne, verset 67, « Quand le dommage vous touche sur la mer, loin de vous sont les divinités que vous priez, exception faite pour lui. » Il nous dit aussi, « Quel est votre avis si l'eau dont vous disposez se perd de terre ? Qui donc, sinon Dieu, vous donnera une eau pure ?» Il nous dit aussi, dans une autre sourate, « Nous avons fait descendre du ciel une eau en quantité définie, et nous l'avions maintenue à la surface de la terre, alors que nous avions pouvoir de l'emporter. » On est en quelque sorte, on croit être maître des lieux. Au fait, on n'est pas des vrais maîtres des lieux. C'est comme si quelqu'un travaille dans une propriété, on lui a délégué, on lui a donné un code comment il devrait se comporter, et à un moment donné, il a cru qu'il est devenu propriétaire. Et il a oublié qu'il n'est pas le propriétaire, que le propriétaire peut venir à n'importe quel moment et lui dire, « Monsieur, vous n'avez pas respecté le contrat, vous n'avez pas respecté le code qui était entre nous, maintenant vous allez sortir, vous allez quitter les lieux. » L'environnement comme sujet de serment, dans le Coran, le Seigneur jure, nous nous jurons par le Seigneur, hein, dit Wallah, par le Seigneur, etc. Et lui, il jure par sa créature. Et il y a par sa créature, il jure dans différents versets. Par ceux qu'on envoie en rafale et qui souffrent en tempête, par ceux qui séparent nettement. Il jure aussi par le ciel de constellations, par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin de son. Et ce dont on témoigne, il jure aussi par le ciel et par l'astre nocturne. Et que tu diras ce que c'est l'astre nocturne. Il jure aussi par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. Il jure aussi par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Tout cela, quand il jure le Seigneur par sa créature, c'est de nous renvoyer à sa créature afin de méditer sur cette créature qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et si la créature, elle est quelque chose d'extraordinaire, que dire du Créateur ? C'est ça le secret de la méditation, c'est ça la portée du rapport de l'homme avec la nature, elle a une portée spirituelle. Il jure aussi par le temps. L'homme s'autodétruit par ses dégâts contre la nature. Je ne vais pas citer tout ce que on a des rapports qui sont extraordinairement bien faits, je laisserai ça aux spécialistes de l'environnement et l'écologie, parce qu'il suffit d'aller sur Internet et d'écrire seulement dégâts écologiques et on a quand même des rapports et des rapports qui sont très 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 graves. J'ai vu un rapport du professeur Gérard Neuvière de l'université de Berkmoon qui résume un petit peu quelles sont les nuisances principales, la pollution atmosphérique à grande distance et au niveau planétaire, effet de serre, pluie acide, dégradation du milieu naturel, l'urbanisation sauvage, tout ça qui a des effets sur la santé à moyen et à long terme, gènes respiratoires et oculaires, maladies chroniques, maladies graves, finalement l'utilisation des cours d'eau et de la mer comme poubelle. On peut rajouter l'amiante, une grande université. J'ai eu même connaissance que même l'Institut de la recherche cancérologique, il y avait de l'amiante dans cet institut-là, ce qui est extraordinaire. Alors, les bruits des avions, un problème de santé publique, la déforestation, je parlais de la vache folle, les marées noires, les conséquences du marée noire, perturbation de l'écosystème, destruction des fonds de marins, de l'habitat, etc. etc. Donc, on entend tout le temps à la télévision, l'homme ne se rend pas compte de ce qu'il fait. La responsabilité de l'homme sur Terre en tant que lieutenant. L'islam considère l'homme en tant que premier et dernier responsable. Pourquoi ? C'est pas comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la vache, c'est pas l'animal, c'est pas les végétaux. C'est lui qui est le seul responsable, c'est lui qui a les qualités, les qualificatifs de penser, de chercher, de faire, de gérer. C'est lui qui agit sur la nature. La nature, elle est là, elle accepte, elle refuse. Mais celui qui travaille cette nature-là, c'est l'homme. J'ai dit tout à l'heure que le mot désastre ou le mot désordre est répété dans le Coran. Il est révélé dans plusieurs versets. Allah nous dit dans le Sourate des Byzantins, verset 41, « Le désordre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. » L'homme, il fait des choses incroyables, des désastres, mais il continue. Pourquoi? Parce que les plaisirs et les désirs, ils n'ont pas de limite. Dans un autre sourate de la vache, il nous dit, dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour s'y semer le désordre et saccager culture et bétail, et Allah n'aime pas le désordre. Il nous parle aussi dans un autre verset, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, et ne recherche pas le désordre sur terre, car Allah n'aime point ceux qui font le désordre. Je laisserai, je vais pas citer tous les versets. Le gaspillage, le Coran est farouchement contre le gaspillage, de tout genre de gaspillage, surtout le gaspillage de la nature. Il dit dans un verset, mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs. Dieu n'aime pas les excessifs. Il dit aussi, qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Il nous dit aussi dans un verset, remarquez bien, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Vous imaginez, le Seigneur fait une analogie entre le gaspilleur et le diable, qui est ingrat envers son Seigneur. L'islam donne une grande importance au boisement. Il y a un hadith, la parole du prophète qui est rapportée, même si le jugement dernier est arrivé et qu'on a une plante, c'est-à-dire on tient à une plante, c'est pas parce que le jugement dernier est là, on va se sauver. Le prophète nous dit, plantez cette plante. Plantez-la, même si c'est le jugement dernier. Tellement il donne de l'importance aux forêts et à la nature. L'homme aujourd'hui assume-t-il sa responsabilité vis-à-vis de son Créateur, de ce qu'il gère comme lieutenant de la terre, où il est guidé par sa soif du pouvoir et de l'argent, aveuglé par ses désirs et ses plaisirs? Le constat est alarmant. La modernité qui a bien apporté beaucoup de bonheur dans tous les domaines, malheureusement, nous réserve de très mauvaises surprises, sur le plan naturel et sur le plan humain. Depuis des années, nous assistons à une prise de conscience internationale vis-à-vis de l'environnement et de l'écologie. Cette réaction est arrivée un peu tard. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Le fait que le prix Nobel de la paix de 2007 a été attribué à l'ancien vice-président américain Al Gore, au président du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, est très symbolique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience, et ça c'est très important. Quand on voit que même les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme, ce que fait l'homme vis-à-vis de la nature, des dégâts qu'il fait, quand même il y a une prise de conscience, et que malheureusement, ce n'est pas les politiques seulement économiques ou stratégiques ou écologiques qui devraient être changées afin de calmer cette folie humaine, mais c'est l'éducation spirituelle qui devrait revenir, parce que s'il n'y a pas une éducation spirituelle, on ne peut pas avoir une éducation écologique. Sur cela, je vous remercie. Voilà,
vous nous avez présenté, je crois qu'effectivement dans le Coran il y a beaucoup de références et vous n'en avez pas cité la moitié, je crois.